Alors, bonjour, bonjour. Là, j'ose pas parler parce que j'ai un accent, hein? Mais je pense que vous allez me comprendre. Si vous ne me comprenez pas, vous faites semblant de me comprendre, d'accord? Donc, c'est vraiment une joie pour moi d'être ici. C'est toujours... j'aime beaucoup venir en Suisse. J'avoue que c'est mon pays préféré. Je ne sais pas si vous réalisez la qualité de vie que vous avez. Pas, je ne parle pas juste de richesse financière, tout ça, enlever tout ça, mais juste l'ambiance, l'atmosphère, l'ordre, la tranquillité qu'il y a quand même dans ce pays. J'ai fait plusieurs pays et je vous avoue que la Suisse, elle est dure à battre. Le Canada est très bien aussi, hein? Mais franchement, la Suisse, vous êtes très, très bénis. Et vous allez voir, je l'ai dit au pasteur ce matin, j'ai dit, le Seigneur m'a mis ce message à cœur, mais j'ai l'impression que ce n'est pas dans le bon pays, quoi. Parce que je me dis, je pense que les chrétiens n'ont pas vraiment besoin de faire ce que je veux apporter comme message. Mais bon, peut-être que ça va être pour une famille, qui sait. Peut-être que ça sera pour une ou deux personnes, mais je vais quand même donner ce message. Mais avant, je veux juste vous dire que j'ai apporté deux livres avec moi. Si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, si vous êtes touché par le message, il y a un livre ici, « Équipé et revitalisé pour une prière qui provoque un changement ». Donc, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est pas mon mari et moi, mais c'est un livre que nous, on a découvert il y a 28 ans, parce que ça fait 28 ans que je suis mariée, qu'on a découvert en voyage de noces. Il n'existait qu'en anglais, et ça a été le livre de table de chevet de moi et mon mari depuis toutes ces années. Et ça nous a toujours bien fondé dans la prière, ça nous a toujours aidé à aller plus loin. Donc, il est disponible pour vous. Et celui-ci, eh bien, combien de gens sont mariés ici dans ce lieu? Levez la main. Oh ouais, combien veulent se marier que vous n'êtes pas encore mariés? Oh, il y en a un qui a levé la main. D'accord, écoutez, oui, je le veux. Oui, je le veux, un couple épanoui. Donc, si jamais, ce n'est pas nécessairement pour les couples qui ne vont pas bien, c'est même pour les couples qui vont bien. Parce que des fois, on va acheter un livre, on se dit, il ne faut pas que personne voie que j'achète ce livre, ils vont penser que mon couple ne va pas bien. Mais ce sont les bases, juste les principes bibliques qu'on a besoin parfois de se rappeler, franchement, même si ça fait des années qu'on est mariés et qu'on peut aussi communiquer, bien sûr, à nos enfants par la suite et à d'autres. Donc, voilà, j'ai terminé la pause publicitaire et là, vous êtes prêts? On va plonger dans la parole, hein, parce qu'on est venu pour ça. Vous avez vos Bibles? Est-ce que je vais entendre des pages, des feuilles qui tournent? Mon mari fait toujours le Bible check. En passant, vous avez son bonjour, hein, et le bonjour de notre église aussi, des Parisiens résistants de la Bastille. Donc, notre église est en plein Place de la Bastille et où on a un campus aussi à Place de la République. Donc, on est vraiment dans les endroits où il y a des manifs. À tous les dimanches, il y a des manifs sur Place de la République. Maintenant, on est rendu habitué, mais au début, pour moi, j'ai dû m'adapter. Hein. Ce n'est pas dans la culture canadienne de faire ça. Mais maintenant, bon, je m'y suis habituée. Alors, je vais vous demander de tourner dans Marc 5, et on va regarder ensemble un petit épisode de la vie de Jésus. Alors, c'est mieux que Netflix, vous allez voir. Et on va regarder ensemble, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent dans cet épisode. Alors, c'est Marc 5, le verset 1 à 20, vous l'avez ici. Alors, il est écrit ceci, « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. » Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, » lui répondit-il, « car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ici, c'est les démons qui supplient Jésus. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Et les démons le supplièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu là des légions, assis maintenant, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, lui suppliait de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Voilà. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous, je crois, on la connaît, cette histoire. Le contexte, c'est quoi? Jésus, la veille, il est avec ses disciples, il est dans la barque, il y a cette tempête, il se lève, il calme la tempête, il ordonne à la tempête, aux vagues et au vent de se calmer, et les disciples sont émerveillés et se disent, mais qui est-il pour que même la nature, le vent et la mer se calment? Et là, ils vont être encore plus émerveillés parce qu'il va y avoir cet homme qui avait une légion de démons et qui va être complètement délivré. Et moi, j'ai lu ce texte il y a longtemps, longtemps. Et il y a un mot qui a ressorti. Et c'est de ce mot-là que je vais vous parler aujourd'hui. Le titre, c'est « Je t'en supplie ». Le mot qui ressort, c'est « supplication ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a vu au travers l'histoire qu'il y a de la supplication qui prend place dans ce lieu, n'est-ce pas, dans cette histoire. Et je ne sais pas, mais dans ce texte, on découvre une facette très, très, très encourageante pour nous, les enfants de Dieu, en ce qui concerne justement la prière, lorsque nous allons à Dieu. Parce que la supplication et la prière, c'est la même chose. Selon les différentes versions, même probablement que dans votre Bible, peut-être que c'était écrit « prière » au lieu de « supplication ». Mais ici, j'aime bien cette version avec « supplication ». Et dans sa grande bonté, il y a quelque chose que l'on découvre dans ce texte, c'est que Dieu va répondre à toutes les supplications. Il répond à chacune d'entre elles. Il y a trois groupes ici qui sont différents. Et ils vont venir à Jésus et ils vont le supplier. Le premier groupe, c'est qui? C'est les démons. C'est ce que la Bible nous dit, on l'a lu ensemble. Les démons vont venir et ils vont dire justement, oh, « On t'en supplie, on ne veut pas aller tout de suite dans l'abîme, envoie-nous dans les pourceaux. » Et vous savez très bien qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus a acquiescé leur requête. C'est comme s'il a dit oui, et c'est ce qui est arrivé. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, OK. Vous savez, c'est important, quand vous lisez votre Bible, quand vous lisez surtout les évangiles, parfois on veut découvrir qui est Dieu, comment est Dieu. Eh bien, regardez à Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Vous allez découvrir qui est Dieu, parce qu'il est venu marcher sur terre pour nous montrer qui est Dieu. Un jour, un de ses disciples, Philippe, lui a dit ceci, « Montre-nous le Père. » Et qu'est-ce que Jésus a répliqué? Jésus a dit, « Ben écoute, si tu veux connaître le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. » Ce qui veut dire, regarde à moi, puis tu vas comprendre comment Dieu est. Et je veux vous encourager. Ici, ce matin, ce qu'on va regarder, on va regarder ensemble qu'est-ce que Jésus révèle de la part de Dieu. Pourquoi est-ce que ça, c'est dans la Bible? Pourquoi est-ce qu'on a ce détail? Et ici, ce qu'on découvre, c'est que Jésus nous révèle quelque chose, c'est que Dieu, il est miséricordieux. Si Dieu prend la peine de dire oui à des démons, à répondre, il va encore bien plus forte raison me répondre à moi qui suis son enfant. Êtes-vous d'accord? Moi, quand j'ai lu ça, j'étais très, très excitée, j'étais très contente. Je me suis dit, moi qui souvent doute, ah, est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que je connais assez Dieu? Il me semble qu'il me manquait un verset pour aller avec ma requête, pour m'assurer que... Des fois, on complique tellement les choses. Et ici, c'est comme si j'avais l'impression que Dieu me disait, « Hey, si j'ai pris la peine de quand même écouter une certaine requête alors que j'ai aucun intérêt à faire plaisir à des démons, n'est-ce pas? Eh bien, ne penses-tu pas, Justine, que je vais donner attention lorsque tu te tournes vers moi et lorsque tu me supplies? » Vous savez, la miséricorde, c'est d'avoir une bonté gratuite. Et c'est ce que Dieu a eu ici au travers de Jésus. C'est ce que Jésus a exprimé, le cœur de Dieu. Dieu est miséricordieux. Maintenant, il y a un deuxième groupe de gens. C'était les villageois. Il y avait ce village, il y avait des gens dans les hameaux alentours. Et eux aussi, ils sont venus. Hein, c'est écrit. C'est écrit que cette foule de gens sont venus. Maintenant, pouvez-vous vous imaginer... Ils sont venus supplier Jésus pour faire plus de miracles. Mais non. Ils sont venus supplier Jésus, voilà, pour qu'il puisse peut-être rester avec eux, comme dans beaucoup de villages. Hein. Parfois, c'est ce qui prenait place. Non, ils ont supplié Jésus pour qu'il puisse quitter. On t'en supplie, barre-toi d'ici. On ne veut pas. C'est spécial. Pourtant, Jésus venait juste de faire un très grand bien. Il venait de délivrer un homme qui probablement causait la terreur dans toute la région alentour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais admettons que vous auriez un démoniaque rempli de 2000 démons là, qui se promènent dans Yverdon, là, et puis qui se scarifient, puis qui crient partout et que personne n'arrive. Moi, je sais que sur Paris, là où on est, à Place de la Bastille, il y a beaucoup d'SDF. Et des fois, il y en a qui se parlent à haute voix, il y en a qui sont à moitié là. Et puis, c'est quoi mon réflexe? Ben, je traverse parfois le trottoir parce que je me dis, je ne veux pas me faire accoster, je ne veux pas me... Et donc, imaginez ce qui prenait place quand même dans cette région-là. Il faut se mettre un peu dans le bain quand on lit la Bible. Hein? Si on fait juste la lire un verset après l'autre. Mais si on s'arrête, on se dit, waouh! Ils ont vu cet homme est revenu sain d'esprit, habillé, assis, tout au calme. Et les villageois voient ça et se disent, ils se mettent à supplier Jésus pour qu'il puisse quitter, alors que la paix est revenue, alors que la sécurité de chacun est revenue. Et ici, c'est incroyable comment Jésus ne va même pas parler. Jésus va agir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ça dit que tout simplement, il va se tourner vers sa barque et il va partir. Il va se mettre en marche pour quitter. Jésus aurait pu argumenter, aurait pu dire, « Non, mais vous ne réalisez pas qui je suis. Et de toute façon, chacun d'entre vous, je sais que vous avez des besoins. Je sais que toi, dans ton mariage, ça ne va pas bien. Je sais que ta belle-mère, elle est malade. Je sais qu'un tel, il n'a rien fait. » Il aurait pu dire, « Vous... Peut-être, je pense que franchement, je mérite un meilleur accueil que ça. Regardez ce que je viens de faire. » Pas du tout, il est resté silencieux. Et qu'est-ce que ça nous révèle de la part de Dieu? C'est que Dieu, il nous a révélé que Dieu est respectueux. Dieu, on a vu qu'avec les démons, sa façon de répondre, c'est qu'il est miséricordieux parce qu'il ne mérite pas d'avoir une réponse. Et là, ici, on voit que Dieu, il est respectueux. Il ne va pas faire de forcing, jamais. Dieu ne fera pas de forcing sur nous. Je me suis quand même arrêtée, puis je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils t'ont rejeté comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont laissé partir? Et regardez bien le texte, ce qui est écrit. Ils supplièrent Jésus de s'éloigner, pas du territoire, de leur territoire. C'était leur territoire. Et non le sien. Ils le géraient et ils voulaient continuer de le gérer à leur convenance. Je pense qu'ils ont réalisé que quand Jésus vient changer une vie, il y a un prix rattaché aussi. Hein? Ça coûte. C'est un pays païen, Gadara, juste en face de la Galilée. Et le commerce de ces gens, c'était quoi? C'était le porc. Hier, justement, j'ai mangé des super saucisses de porc avec du chou, la choucroute dedans. C'était très bon. Il paraît que c'est une spécialité de la région. J'ai beaucoup aimé. Mais je ferme la petite parenthèse. Mais ici, comme vous avez vu dans cette histoire, il y a 2000 porcs qui vont se noyer. Et j'ai fait un petit calcul, et même hier, on parlait, et j'ai dit, ça coûte combien, voilà, un porc ici? Parce que, bon, en France, j'ai fait des calculs quand j'ai regardé ça, et j'ai vu que c'était à peu près 4,50 euros le kilo. Donc, un porc de 80 kilos, qui est élevé en plein air et qui est très docile, coûte environ 350 euros hors taxes. Donc, faites le petit calcul de 350 euros hors taxes fois 2000. Nous sommes à 700 balles, les amis. 700 000 euros. Il y a 700 000 euros qui, à l'intérieur de 2 minutes, ont disparu dans la mer. Alors là, on comprend pourquoi ils ont dit « Hey, toi là, il faut que tu quittes. Il faut que tu partes d'ici. » Parce qu'on est en train de tout perdre. Parce que ce n'était pas que les porcs, mais imaginez toutes les dérivés qu'il y avait alentour aussi, voilà, les dérivés, les produits, les emplois, tout ce qui était fait, quoi. Ils ont souligné à Jésus que c'était leur territoire. Maintenant, quand on lit la Bible, on a besoin de s'arrêter et de se poser cette question, de se poser nous des questions. Est-ce que ma vie entière est son territoire? Est-ce qu'il peut enlever des choses? Est-ce qu'il peut mettre son doigt sur des pensées que j'ai, sur des habitudes que j'ai, sur des choses que je fais, sur des choses que je possède? Est-ce qu'il y a une certaine zone dans ma vie qui est juste strictement interdite? C'est sens unique, voilà. C'est réservé juste à ma propre volonté. Est-ce qu'il est vraiment bienvenu partout? Ou est-ce que j'ai des endroits dans ma vie où il n'est pas le bienvenu? Ou, écoute Seigneur, je gère ma façon. J'ai toujours su, je sais comment, je vais le faire, je vais m'en occuper. Est-ce que je suis prête à perdre pour le gagner, lui? C'est une question qu'on a besoin de se poser. Et pas au début de notre vie chrétienne quand on arrive à Jésus. Parce que moi, ça fait plus de 30 ans que j'appartiens au Seigneur. Et quand on avance avec Dieu, au fur et à mesure, il continue à faire le ménage. Au fur et à mesure, s'il ferait tout d'un coup, ça serait trop. On n'y arriverait pas. Mais au fur et à mesure, et pourquoi est-ce qu'il fait ce ménage? Bien, parce qu'il veut nous alléger, parce qu'il veut notre bonheur, parce qu'il veut qu'on soit plus heureux, n'est-ce pas? Est-ce que je suis prête à me séparer de tout ce qui me sépare de lui? Moi, j'ai confiance que Saint-Esprit, et c'est ce que j'ai prié même dans le bureau avec Pasteur Luc, que Saint-Esprit puisse mettre son doigt sur quelque chose peut-être dans votre vie. Est-ce que Dieu peut faire le ménage et renvoyer ce qui nuit à ma relation avec lui? Jésus ici n'a pas discuté. C'est le Créateur de l'univers. Il n'a pas fait de forcing. Il s'est juste retourné et il est juste parti. Il est retourné dans sa barque. Donc là, on a vu qu'au travers la supplication, on découvre que Dieu veut toujours y répondre et que Dieu est miséricordieux et qu'il est respectueux. Maintenant, on va aller à la troisième personne qui est venue supplier Jésus. Qui est cette personne? Eh bien, il est écrit que c'est notre fameux homme qui était ce démoniaque qui a été délivré. Et il va venir voir Jésus. Et quelle va être sa supplication? Il va dire, « Seigneur, je veux te suivre. Je veux quitter ici, là, et je veux partir avec toi. » Et là, quand on lit ça, mais on se dit, « Mais c'est une belle requête. Mais c'est digne, mais c'est noble, mais c'est sûr que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est super. Hein? » Je ne sais pas, mais moi, c'est ce que je me dis quand je lis ce texte. Et là, on regarde comment Jésus va répondre. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, il va dire non. Ah, mais Justine, moi, je pensais que Attends, ton message, c'est censé être un bon message, hein, que Jésus répond à toutes les supplications, puis il nous dit toujours oui. Non, des fois, il y a des réponses qu'on ne veut pas de Dieu. Hein. On le supplie, puis on espère qu'il dise ce qu'on veut entendre. On espère qu'il va nous donner ce que nous, on veut qu'il nous donne. Parce que nous, on nous connaît mieux nous-mêmes que lui nous connaît, n'est-ce pas? Et là, ici, qu'est-ce qui prend place? Eh bien, Jésus ne va pas acquiescer. Pourtant, le souhait de cet homme-là était très bien. Il voulait juste plus jamais se détacher de Jésus. Il était devenu gaga de Jésus parce que Jésus avait fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Il avait vraiment goûté. Ce n'était pas juste de l'intellect, il avait vécu une expérience avec lui. Et peut-être aussi qu'il voulait repartir à zéro. Et je le comprends très bien, hein, parce que je ne sais pas, il voulait peut-être avoir un nouveau départ, parce qu'en quelque part, peut-être qu'il n'avait pas trop des bons souvenirs de cet endroit. Il sait qu'il n'avait pas une super réputation aussi. Hein? Probablement que les gens cherchaient à s'éloigner de lui, à l'éviter. Probablement que, hein, alentour du lavoir, là où les femmes, à l'époque, c'est le Facebook de l'époque, ils lavaient leurs vêtements. Et puis, ouais, t'as su qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, à cause de lui, on a perdu 2000 porcs et tout. Et peut-être qu'il se disait, ouais, moi, j'aimerais bien repartir à zéro. J'aimerais bien recommencer à nouveau. Mais c'est fascinant de voir la réaction et la volonté de Jésus. Il est écrit, Jésus ne lui permit pas, mais... Ah! Quand Jésus dit non, quand Dieu nous dit non, c'est parce qu'il y a un autre plan, il y a un mais. Mais, il lui dit, va dans ta maison, auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous étaient dans l'étonnement. Ici, qu'est-ce que Jésus est en train de nous révéler de la part de Dieu? Il est en train de nous révéler que Dieu sait mieux. Il sait, il connaît les choses. Vous savez quoi? La sagesse de Dieu, c'est de prendre les meilleurs moyens pour la meilleure fin. Et oui, sur le coup, ça aurait peut-être été bien que notre monsieur aille avec Jésus à l'école biblique des disciples dans la barque, mais Jésus a dit non. Jésus nous révèle que Dieu sait mieux. Pourquoi? Parce que Dieu il est déjà dans notre futur et il pense déjà au futur. Et il pense aux répercussions aussi dans le futur. Les noms, le nom de Dieu, lorsque Dieu nous dit non, ou le refus de Dieu, n'est pas pour nous laisser les mains vides, mais pour nous donner autre chose. Jésus a dit non, mais. Il y avait ce mais. Nous, on veut ce qui est bien, mais vous savez quoi? Le Seigneur veut ce qu'il y a de mieux. Nous, on se contente parfois de ce qui est bien, et le Seigneur dit, fais-moi confiance. Moi, j'ai mieux pour toi. Il y a meilleur. Remarquez ici que Jésus lui dit non, mais va lui offrir autre chose. Jésus, il a un plan divin. Il est au-dessus de tout. Et regardez, il y a un plan divin, premièrement, pour qui? Eh bien, pour notre cher monsieur. Jésus a un plan pour lui. Je ne sais pas pendant combien de temps il a été démonisé, mais je pense que pendant, en tous les cas, un certain bout de temps, pendant un moment, peut-être qu'il ne s'est pas senti très, très utile dans sa vie. Hein? Peut-être qu'en quelque part, il n'y avait pas vraiment d'occupation non plus. Même il a été, comme j'ai dit tout à l'heure, la terreur du village et des alentours. Et peut-être, qu'il ne pensait pas grand-chose de lui-même, mais Jésus voit quelque chose. Et Jésus voit qu'il est apte à être le premier évangéliste de la région. Et je ne sais pas si les disciples étaient jaloux dans la barque, dire tu as vu, il a dit qu'il aille partout annoncer la bonne nouvelle à une décapole. Eh bien, nous, ça fait quand même plus qu'un an qu'on est avec Jésus. Je ne sais pas s'il y a eu cette réflexion. Mais, en quelque part, c'est beau parce que Jésus l'envoie vers cette décapole, vers ses 10 villages. Et pourquoi est-ce qu'il est prêt à véhiculer une bonne nouvelle? Parce qu'il a du vécu. Parce que c'est plus que juste de l'intellect, mais il a expérimenté. Il est convaincu. Et il n'y a pas plus convaincant qu'une personne convaincue, je l'ai dit hier justement aux parents. Il était, vous savez quoi, un épître vivant lu. Et c'est ce qu'on est appelé à être. Est-ce que votre vie, est-ce que votre couple, est-ce que votre famille, lorsque les gens vous regardent, vous côtoient, vous croisent, entendent parler de vous, donne envie? Ah, est-ce qu'ils disent, wow, il y a vraiment un Dieu? Ils sont différents, eux. Vous êtes un épître vivant lu. Vous savez très bien comme moi aujourd'hui que les gens ne vont pas nécessairement ouvrir la Bible pour lire, mais ils vont lire votre vie, surtout lorsqu'ils savent que vous êtes chrétien. Ah oui, elle est chrétienne, elle. Ils commencent à nous étudier, à nous épier parfois, mais c'est très bien. Donc Dieu, ici, il avait un plan pour cet homme-là. Deuxièmement, il y a un plan pour les villageois. Jésus dit, oui, c'est vrai. Dans son amour, Jésus est tellement bon. Il dit, c'est vrai, ils m'ont rejeté, je suis parti, j'ai quitté, mais je vais laisser quelqu'un qui va leur rappeler chaque fois qu'ils vont marcher ce que j'ai fait pour cet homme-là. Ça va être un message d'espoir. Ça va être un message de dire, il n'y a rien de trop grave dans ta vie qui peut arrêter la puissance de Dieu d'agir. Amen. Il n'est pas trop tard pour venir à moi. Et en plus, il n'y a même pas une légion de démons qui peut t'empêcher de venir à moi. Parce que cet homme-là était démonisé, et avez-vous remarqué, il a quand même réussi à se rendre jusqu'au pied de Jésus, hein? Donc, c'est comme si Jésus dit, je vais laisser cette bonne nouvelle-là se promener un petit peu partout. Lui, il s'en rend peut-être même pas compte, mais même quand il va faire les choses les plus simples de la vie de tous les jours, alors qu'il est maintenant saint d'esprit, alors qu'il est maintenant libre, eh bien, les gens, bien sûr, ils vont se souvenir, ah oui, ce Jésus qui est passé dans notre village. Et en quelque part, ça va être le plus grand moyen d'évangélisation, je crois. Amen. Même s'il avait 2000 démons, rien n'a pu empêcher cette âme fatiguée, tourmentée et perdue de venir à lui. Et c'est pour ça que Jésus le laisse là. Vous savez, l'homme délivré aurait peut-être aimé un nouveau départ. Et il aurait pu avoir un nouveau départ, juste tout quitter. Mais Jésus savait quelque chose. C'est que sa vie proclamerait que tout réel, nouveau départ prend place par un cœur et une vie qui est transformée par lui. Nous, aujourd'hui, parfois, on court à gauche et à droite. Si seulement je pouvais avoir un nouveau mari, tout irait mieux. Si seulement j'avais une nouvelle maison. Ah, il me semble que si seulement on changeait de village. Ah, si seulement. Ah, on a des si, des si, des si. Et on se dit, ah, avec la nouveauté, avec... voilà, un nouveau boulot. Ah, je pense que je vais retourner aux études, je vais me réorienter. Et il n'y a rien de mal dans tout ça. Hein? Mais c'est que le truc, c'est comme si on met notre espoir dans ça pour enfin vivre quelque chose de, ah, d'exaltant. Alors qu'ici, on voit que tout réel, nouveau départ prend place par un cœur et une vie qui est transformée par lui seul. Tu peux tout changer alentour de toi. Mais comme je disais hier, le cœur du problème, souvent, c'est le cœur. Et c'est pour ça que Jésus, c'est le spécialiste à transformer et à changer nos cœurs. Amen. Et pour finir, Jésus avait un plan divin pour l'homme en question, pour les villageois et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pourquoi est-ce que je dis ça? Regardez bien. En lui demandant, Jésus va dire à un homme, là, réfléchissez, rappelez-vous, c'est un homme qui n'arrivait pas à se contrôler, à se maîtriser, qui fallait attacher, lui-même réussissait pas à se contrôler et les gens du village ne réussissaient pas non plus à le maintenir. Maintenant, regardez la puissance extraordinaire de Dieu en lui demandant de rester, c'est-à-dire de faire l'opposé de ce qu'il venait de demander. Hein, il a demandé à Jésus, il a dit, « Laisse-moi partir avec toi. » Jésus dit non. Donc, en demandant de faire l'opposé de ce qu'il voulait, la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu est révélée. Parce qu'on l'a lu, il n'arrivait pas à se maintenir. Et ce qui est beau, c'est que la grandeur de Dieu, son autorité, l'homme le supplie pour suivre Jésus, mais Dieu a un autre plan. Et il va s'y soumettre. Il ne va pas discuter. Il ne va pas chercher à convaincre Jésus. Il va juste obéir.
Wow!
Jésus ne fait que lui parler. Il n'y a pas besoin d'avoir une myriade d'anges pour le contenir, pour lui dire, écoute, là, tu vas m'écouter. Non, tu ne viens pas dans la parc avec nous. Non, pas du tout. Il va juste lui dire non. Et en plus, c'est l'opposé de ce que lui voulait. Mais Dieu est tellement puissant quand il transforme une vie. La première des choses qu'il va travailler, c'est qu'il va la soumettre. C'est qu'il va le faire marcher dans l'obéissance. Et c'est ce qui va prendre place ici. Cet homme est habité par la nature même de Christ. Savez-vous pourquoi? Parce que sa vie, ça a été « OK, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. » Et Jésus, si vous voulez définir sa vie en une phrase, ce n'est pas juste une phrase du jardin de Gethsémané, mais ça a été toute sa vie « Non ma volonté, mais la tienne. » Donc ici, la puissance de Dieu qui change une vie, elle est révélée. C'est extraordinaire. Vous savez, les disciples, en moins de 48 heures, ils ont vu, waouh, la puissance de Dieu qui calme les tempêtes, qui calme, qui ordonne au vent, à la mer, qui ordonne aux démons de partir. Waouh! Les disciples ont déclaré, mais qui est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent? Et moi, ce qui m'a surtout touchée dans cette histoire, je me suis dit, mais Seigneur, qui es-tu pour qu'un homme comme ça t'obéisse, pour que tu viennes même toucher la volonté d'un homme? Vous savez, les trois supplications, chacune d'entre elles avait un but très précis. Ils avaient comme but une direction. Et combien d'entre vous, parfois, vous dites, « Ah, j'aimerais ça savoir la volonté de Dieu pour ma vie. Hein? » Des fois, vous êtes face à un choix, « On fait quoi, ça ou ça? Seigneur, il faut que tu me parles. Seigneur, il me faut un signe. Seigneur, il me faut une prophétie. Seigneur, il me faut... Hein? » On court à gauche et à droite. Et ici, on voit les trois, ils avaient quelque chose de très précis, c'est qu'ils voulaient aller dans une direction. Les démons ont dit, « Envoie-nous dans les ports. » Les villageois ont dit, « Quitte ce village. Hein? » Et l'homme qui venait d'être délivré a dit, « Moi, je veux te suivre, je vais aller dans la barque. » Chacun, c'était une question de direction. Et l'homme, il a tellement besoin de Jésus, moi la première, pour être guidée, pour être dirigée, pour aller justement dans la bonne direction. Et c'est beau de voir justement la soumission et la confiance dans le plan de Dieu que cet homme-là a eu au travers de son obéissance. Il avait goûté à la grande bonté de Dieu et savait que son plan était meilleur que le sien et il a décidé de lui faire confiance. Et est-ce que vous êtes prêt à lui faire confiance aujourd'hui? Parce que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu est bon. On le chante. Dieu est bon en tout temps. Je ne sais pas si vous chantez ça ici, mais bon, nous aussi on le chante. Et c'est parce qu'il est plein de bonté, qu'il est miséricordieux, qu'il est respectueux, qu'il a toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Vous savez quoi? Dans la Bible, il y a plus de 560 fois la mention de la bonté de Dieu. 560 fois. Je pense qu'on a besoin de se le rappeler. La Genèse, dès le premier livre, le premier jour que Dieu crée quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est bon, c'était bon. Voilà, cette chose était bonne. Et il y a un verset qu'on aime beaucoup qui dit « Toute chose concourt au bien. » Vous ne le connaissez pas? On va essayer de tous le dire ensemble. « Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. » Avez-vous remarqué, il y a un petit mot qui est très puissant. Il n'y a que 4 lettres. Tout. Tout. Pas que les choses qui sont bien. Qui sont bonnes, pas que mes réussites, pas que mes exploits, pas que lorsque, ah, voilà, je pense bien, je comprends bien, je fais bien. Non, tout. Mes erreurs, mes boulettes, mes péchés, mes manquements, tout. Tout, Dieu est tellement extraordinaire, tellement puissant, tellement bon. Même les moments qu'on ne comprend pas que nous vivons, même les maladies, tout, Dieu peut le faire concourir au bien. Vous voyez, j'ai reçu, moi, cette pensée-là dans la prière et vraiment, ça m'a encouragée. Je me suis dit, Seigneur, franchement, si tu réponds à des démons, OK, je vais te croire, tu veux me répondre à moi aussi. Amen. Et à toutes ces personnes qu'on voit dans le texte. Mais je veux juste finir avec ceci, la supplication. Parce que je pense qu'on ne comprend pas c'est quoi la supplication. Du moins, moi, je n'avais pas une bonne image de la supplication. J'avais l'impression un peu que la supplication, c'était comme une espèce de plaidoyer que je viens faire devant Dieu, qui est un grand juge, et je dois le convaincre de m'aider. Hein? Alors que ce n'est pas ça du tout, parce que la Bible nous dit que Dieu est bon. Et vous savez, en hébreu et en grec, la définition de la bonté, vous savez, c'est quoi? Elles sont plus simples. C'est une personne qui se rend disponible pour nous aider. C'est ça. C'est comme si Dieu se tient dans ta vie et puis qui dit, en passant, tiens, Anne-Claude, parce que je connais Anne-Claude, je ne connais pas tous vos noms. Hein? En passant, Anne-Claude, je suis là, hein? Je suis disponible, je peux t'aider. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez Dieu? Ou vous voyez Dieu comme étant tellement occupé? J'espère juste qu'il entend ce que je lui demande. Hein? Mais non, il est disponible. Il se rend disponible. Le maître de l'univers est disponible pour nous aider. Et quand on commence à voir Dieu comme ça, on voit la supplication d'une façon différente aussi. De le supplier, c'est juste de venir à lui avec toute humilité et dire, « Seigneur, je t'en supplie, viens m'aider. J'ai besoin de toi et viens faire ta volonté. » La définition de supplier, le verbe supplier, c'est de prier quelqu'un avec insistance et humilité pour lui demander quelque chose. C'est aussi de venir demander de l'aide à une personne qui est en position de force. Ah, OK, attends. Supplier, c'est de venir demander de l'aide à quelqu'un qui est en position de force. Alors, est-ce que vous voyez Dieu en position de force comme étant plus grand que vos circonstances, que vos besoins, que vos impossibilités? Si vous dites « ben oui », alors pourquoi est-ce qu'on le supplie si peu? Pourquoi est-ce qu'il devient plus notre dernière chance au lieu de notre premier choix? Pourquoi? Si on croit vraiment qu'il y a toutes les capacités, qu'il y a toutes les ressources, un peu comme nos enfants. Hein? Nos enfants, avez-vous remarqué, ils se tournent vers nous pour nous demander de l'aide et on ne fait pas l'inverse. Je ne vais pas demander à mon enfant de 4 ans de m'aider à faire le budget. Non, je sais qu'il n'y a pas les forces, les capacités, qu'il n'y a pas les ressources. Mais l'inverse peut prendre place. Et nous, est-ce qu'on a ce fonctionnement-là avec Dieu? Tout simplement, est-ce que c'est notre réalité? Est-ce que c'est notre perception de Dieu? Est-ce qu'il est en position de force? Est-ce qu'on est vraiment réellement conscient qu'il a toutes les ressources, la position qu'il faut et les capacités pour nous aider? Est-ce qu'on le voit comme étant celui qui peut avoir le dernier mot, au-delà de notre patron? C'est vrai? Premièrement, pour qui vous travaillez aussi? Pour Dieu avant tout, hein? Merci Seigneur, on bénit notre patron. Mais il est au-dessus de tout ça. Et s'il veut faire faveur sur vous pour quelque chose de précis, il va le faire. Amen. La supplication, c'est une forme de prière. Et Dieu aime y répondre. L'apôtre Paul va même dire dans Philippiens 4:6, qu'on connaît très bien, « Ne vous inquiétez donc de rien. Hein? Mais faites rien. Attendez. OK, chérie, écoute, il n'y a pas de souci. On vient d'avoir de mauvaises nouvelles. On ne va rien faire. On va attendre. Ça dit de s'inquiéter de rien, donc on va juste attendre. » Non. C'est écrit dans le verset « Mais hein? ». Il y a toujours le « mais » de Dieu. « Mais en toute chose, par des prières et supplications, avec action de grâce. » Action de grâce est hyper important parce que c'est ça qui bâtit notre foi. Au lieu de juste se concentrer à prier puis à regarder le gros problème puis de crouler dans notre prière quand on s'approche de Dieu, on peut dire, « Mais Seigneur, on a tel souci, mais Seigneur, on sait que tu vas agir parce que dans le passé, tu as fait tel truc. Pour telle personne, tu as agi. Dans la parole, on lit que... hein? » Et là, on vient comme ça. Et puis, qu'est-ce qui prend place? Eh bien, ça dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Et Dieu va venir et il va répondre. Amen. Paul savait que Dieu répond toujours à la supplication. David, le roi David, qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit dans le psaume 116:1? « J'aime le Seigneur car il entend ma belle voix. » Mélodieuse. Non, j'aime le Seigneur car il entend ma voix suppliante. David, qui était roi, n'avait pas peur de s'humilier et de supplier Dieu. Parce que même s'il était roi, même s'il avait toutes les ressources, même s'il connaissait beaucoup de choses, même s'il avait beaucoup de capacités, il venait à des moments où ce que il fallait qu'il supplie Dieu. « Prête l'oreille à mes supplications », c'est ce qu'il va dire. Voyez, le titre de ce message, c'est « Je t'en supplie ». Et c'est quelque chose que j'ai entendu dans mon cœur. Je fais un peu de l'anthropomorphisme, là, comme si Dieu était un peu un homme, n'est-ce pas? Mais c'est comme si, en étudiant ce texte, en le lisant, c'est comme si j'ai senti dans mon cœur Dieu me dire « Justine, je t'en supplie. Supplie-moi. Tu le fais pas assez souvent. Si seulement tu savais la puissance qui est relâchée quand tu me supplies. » Et Dieu, justement, veut te dire ce matin, je ne sais pas tu en es où avec cette histoire de supplication, mais Dieu veut te dire ce matin, ta supplication touche mon cœur. Tu veux toucher le cœur de Dieu? Supplie-le. Ta supplication me montre que tu crois en ma toute-puissance. Ta supplication me dit que tu as confiance en moi. Et ta supplication exprime ta grande dépendance envers moi. Donc Dieu nous dit, à moi la première, à chacun d'entre nous, je t'en supplie, supplie-moi. Tu verras ce que je peux faire. On dit en anglais, put me to the test. Hein? Fais de moi ton premier choix et non ta dernière chance. Amen. Voilà. J'ai pensé, on n'a pas fait la Sainte-Cène. J'ai dit à Luc, ça pourrait être bien qu'on le fasse à la fin, parce que la Bible nous dit de faire une introspection, hein, quand on prend la Sainte-Cène ensemble. Puis je pense qu'on a besoin d'avoir un moment d'introspection. Quand on vient à l'Église, bien sûr, on peut juste venir, écouter le message, puis se dire, OK, bon, c'était bien, ouais, j'ai appris des choses, toi aussi, ouais, tout bon. Et puis voilà. Hein, on peut très, très bien faire ça. Ou dire, ouais, franchement, c'était pas si pire son accent. Hein. T'as remarqué, c'est spécial comment il est habillé. Hein. C'est pas comme chez nous. Je sais pas, mais je sais qu'on a tellement des fois. C'est drôle ce que les gens peuvent venir nous dire. Mais vous savez, je pense qu'on a besoin de faire un moment d'introspection, de se placer devant Dieu, tout simplement. Et je veux juste vous rappeler quelque chose concernant la bonté de Dieu. Je vous ai dit que c'est 560, il y a 560 mentions de la bonté de Dieu dans la Bible. Et je vais en prendre une qui est un classique, que vous connaissez probablement par cœur, dans le psaume 23. Qu'est-ce qui est écrit? « Oui, sa bonté et sa fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Maintenant, pensez à celui qui a écrit ça. C'est David. Et selon les biblistes et ceux qui ont, voilà, qui sont très, très, qui ont des cerveaux à 15 étages, là, et qui étudient beaucoup la Bible, ils ont dit que David n'a pas écrit ça au début de sa vie, mais vers la fin, ou plus vers lorsqu'il est roi, lorsqu'il est adulte, lorsqu'il y a eu beaucoup de défis. Et regardez, il va dire, « Oui, sa bonté et sa fidélité m'accompagneront. » Ce n'est pas à moi de courir après. M'accompagneront. Et David savait c'était quoi d'être accompagné. Il était roi, donc il devait avoir des gardes du corps, il devait avoir tout un entourage qu'il suit régulièrement. Il savait c'était quoi d'être accompagné. Et là, il va transposer ça, puis il va dire, « Oui, ta bonté et ta fidélité m'accompagneront, pas que oh, quand j'en ai besoin, mais tous les jours de ma vie. » C'est une belle promesse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme ça aussi pour nous aujourd'hui. Tout simplement, ce qu'il faut, c'est le croire. C'est le vouloir. C'est de l'accepter. Amen. Donc, je vais vous inviter à prendre un moment juste d'introspection. Et je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que l'histoire des territoires vous a touché un petit peu. Peut-être que vous dites, Justine, tu sais, j'ai réalisé que ce n'est pas toute ma vie entière qui lui est consacrée. Il y a des zones où ce que je me dis, Seigneur, c'est bon, tu ne touches pas, je m'en occupe. Et voilà, je ne veux pas... Cette relation-là, j'y tiens bien et je ne vais pas l'arrêter. Cet endroit-là où ce que je fais, où ce que je regarde, donc je vais continuer. Je ne sais pas, c'est personnel à chacun. Mais peut-être qu'avant de prendre la Sainte-Seine, on a besoin de se placer devant Dieu et dire, Seigneur, je ne sais pas comment, et je sais qu'il faudrait que toute ma vie entière t'appartienne. Et je vais me placer devant toi aujourd'hui. Je veux te donner cette chose que je retiens tellement, parce que j'ai l'impression que je vais tout perdre sinon, que je ne serai plus heureux. Faites confiance à Dieu. Peut-être que certains d'entre vous, ce qui vous a touché, c'est de réaliser que je ne supplie jamais Dieu, moi. Franchement, je réalise que ça ne fait pas partie de ma vie. Je ne voyais pas d'un bon œil cette expression de la supplication. Et je veux avoir ce cœur tout simple qui vient comme un enfant et qui supplie son papa pour quelque chose. Je veux, Seigneur, me mettre à te supplier, pas juste pour ma vie, mais pour les besoins des autres aussi. En passant, l'Ukraine a beaucoup de besoins. Beaucoup besoin que le peuple de Dieu se mette à supplier Dieu pour eux. Amen. Peut-être que d'autres personnes, vous êtes ici aujourd'hui et vous savez ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin de dire merci Seigneur pour les noms que tu as permis dans ma vie. Ou pour la saison dans laquelle je me trouve, je voudrais tellement que ce soit autre chose, mais tu as fermé la porte. Tu as dit non. Et par la foi, je veux juste me recueillir et je veux te remercier pour ce nom. Moi, je sais qu'à un moment donné, il y avait quelque chose de très précis dans ma vie que je voulais. Et Dieu, c'est comme si je l'avais. Je me suis dit « Yes! » Une semaine plus tard, Dieu a fermé la porte. Oh, je dis « Mais je ne comprends pas. » Et c'est 2 ans plus tard que j'ai compris. J'ai dit « Seigneur, merci que tu aies dit non. » Merci que tu aies fermé cette porte. Merci que tu ne m'as pas donné cette opportunité que je voulais tellement. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, je vais vous laisser tout simplement prendre un temps, voilà, de vous placer devant Dieu. Je crois que Pasteur Luc va diriger la suite. Et je vais juste finir en prière pour vous. Alléluia. Seigneur, on vient en toute simplicité. Il y a une chose que nous savons, Seigneur, c'est que tu es ici ce matin. Tu nous as précédés dans ce lieu et tu nous aimes. Et Seigneur, merci pour ta bonté. Et je prie une prière tellement simple. Seigneur, donne-nous la foi d'avoir de la foi. Je prie pour un dépôt de foi dans nos cœurs. On a besoin d'avoir plus confiance en toi. La Bible dit que tu es l'auteur de notre foi. Alors je prie, Seigneur, viens et augmente notre foi afin qu'on puisse te supplier davantage. Merci, Jésus, pour toutes les supplications à laquelle tu vas répondre. À chacun d'entre nous, à chaque couple, à chaque famille et à cette Église en tant qu'un corps. Seigneur, je prie, puisses-tu répandre sur nous un esprit de prière, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas le voir comme une perte de temps, on veut le voir, Seigneur, comme un gain extraordinaire. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et je te remets chaque personne ici dans ce lieu qui est si précieuse à tes yeux. Amen. Amen. Merci.